بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح اللهم شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. شكرا. Nous allons poursuivre notre série de cours sur la lecture du livre intitulé Anwa'u al-Fitan Haqiqatuha wa Khataruha wa Subul al-Tahdhir minha. Les différentes sortes de troubles, ses réalités, ses dangers, ainsi que les voies et moyens permettant d'être à l'abri de ces troubles. Et nous précisons que c'est la deuxième assise, puisque lors de la première assise, nous avons lu l'introduction du livre. Donc, ceci est la deuxième assise, et je précise que la date d'aujourd'hui, c'est le 26 Jumad al-Oula 1440, ce qui correspond au 2 février 2019. Et j'ai prié qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde l'accommodement dans la traduction et la fidélité. Non, la fidélité, l'accommodement dans la fidélité et dans la tradition des propos de l'auteur, ainsi que dans tout ce que je pourrais apporter comme connotation ou alors annotation sur ce que dira l'auteur. Qala rahimahu, qala hafidhahullah, ahamiyatul hadith anil fitan. L'importance de parler des troubles. Ça veut dire que dans ce cours et dans ce chapitre, l'auteur va nous parler de l'importance de parler des troubles. Pourquoi est-ce qu'il est important de parler des troubles du point de vue islamique? Pourquoi est-ce que nous devons parler des troubles? Pourquoi est-ce que les savants ont écrit sur les troubles? Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi est-ce que l'islam a parlé des troubles? Qala rahimahullah, na'rifu jami'an anna Allah azza wa jal takarrama alayna wa tafaddala bi an ja'alana muslimina mu'minina muwahhidin. Nous savons tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés et nous a accordé son bienfait en faisant de nous des musulmans, des croyants et des monothéistes. وَدِينُنَا هُوَ أَفْضَلُ الْأَدْيَانِ وَأَكْرَمُهَا وَعَظَمُهَا. Et notre religion, qui est celle de l'islam, est la meilleure des religions. La religion la plus honorée et la religion la plus grande. وَأَكْمَلُهَا وَأَتَمُّهَا. Et c'est la religion la plus parfaite et la plus complète. وأكثرها تحقيقا للمصالح وجلبها. Et c'est la religion qui a le plus, ou alors qui s'est le plus intéressée à la réalisation des intérêts, ou alors la religion par le biais duquel on réalise le plus, ou alors on accède le plus aux intérêts. Wajalbiha, et par le biais duquel on attire les intérêts. Wadar il mafasidi wa taqliliha. C'est également la religion par le biais duquel, ou alors, qui sait le plus par le biais duquel on repousse le plus le mal. Ou alors qu'on diminue. Ou zawa liha. Ou alors qu'on éradique complètement. Donc, je veux nous faire comprendre que il n'y a pas une religion par le biais duquel, ou alors qui permet de réaliser les intérêts, d'accéder aux intérêts, de repousser le mal, la corruption, de la réduire ou de l'éradiquer comme l'islam. C'est pour ça que celui qui connaît ce que c'est que l'islam n'a aucun doute que l'islam c'est la solution à tous les problèmes. Et à essayer à tous les niveaux, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan économique, l'islam est la solution. Parce qu'il n'y a pas une religion qui permet d'accéder aux intérêts, de préserver ses intérêts comme celle de l'islam. Et il n'y a pas une religion qui permet de repousser la corruption, de la réduire et même de l'éradiquer comme celle de l'islam. Et c'est même ça l'objectif premier de l'islam. Ou alors ça fait partie des objectifs premiers de l'islam. Fa a'zamu maslaha at-tawhid wa l'islam ja'a bihi. L'intérêt absolu, le plus grand intérêt, c'est celui de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui voit un culte sincère et exclusif. Ça, c'est le plus grand intérêt. Et la plus grande corruption, c'est adorer un autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la mécréance. Et l'islam est venu abolir le polythéisme et la mécréance. قال ولذلك فإن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait défendre sa parole suivant sur son vénérable prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai comblé par mes bienfaits, de mes bienfaits. ورضيت لكم الإسلام دينا et je n'ai agréé pour vous comme religion que l'islam. Et lorsqu'on médite sur ces versets, on comprend aisément que le verset indique et témoigne de la vérité de ce qu'a dit l'auteur. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé l'islam, ça veut dire que l'islam est complet. Donc, il n'existe pas un seul problème sans que l'islam ne soit la solution à ce problème. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي et je vous ai comblé par mes bienfaits. C'est-à-dire par le biais de l'islam. Donc si quelqu'un veut accéder aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, veut préserver ses bienfaits et être à l'abri de la corruption, il se doit de se cramponner aux enseignements de l'islam. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ Donc c'est pour ça. C'est à cause de cette introduction qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a agréé pour religion que l'islam. Parce que c'est une religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé, qui est complète. Et c'est par le biais de cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé ses serviteurs de ses bienfaits. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a agréé pour seule religion que celle de l'islam. قال رحمه قال حفظه الله ثبت في صحيح البخاري أن يهوديا جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إليتي certifié dans le récit authentique du Bukhari qu'un juif était venu voir le prince des croyants Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Faqal, il lui a dit: Ya Amir al-Mu'minin, ô prince des croyants, ayatun fi kitabikum takra'unaha lo alayna nazalat معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. Dit, un verset qui existe dans votre livre que vous récitez, si ce verset avait été révélé sur nous juifs, لاتخذنا ذلك اليوم عيدا, nous aurons fait de ce jour, du jour de la révélation de ce verset, un jour de fête. Méditez bien sur la parole de ces juifs. Les juifs, c'était des gens qui avaient reçu le livre avant. Donc c'est des gens qui connaissaient ce que c'est que la révélation et qui comprenaient le sens des textes de la révélation. Parce que ils avaient déjà reçu un livre émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que lorsqu'ils sont tombés dans ce verset, ils ont compris le sens et la quintessence de ce verset. Ils ont compris que c'était un grand verset qui indiquait la grande place de l'islam et le mérite de cette religion. Voilà pourquoi ils ont dit, Et ce juif a dit à Omar ibn Khattab, radiallahu, que si ce verset avait été révélé, sinon on aurait fait de ce verset, on aurait fait du jour de la révélation de ce verset un jour de fête. Qala ayatu ayatin. Omar ibn Khattab, radiallahu, à lui de lui dit, de quel verset s'agit-il? Faqala, le juif a dit, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa akmamtu alaykum ni'mati. Et je vous ai comblé par mes bienfaits, de mes bienfaits. Wa radaytu lakum al-islam adina. Et j'ai accepté, j'ai agréé pour vous comme religion l'islam. Sourate al-Ma'ida. Faqala Umar radiallahu anhu. Umar radiallahu anhu lui a répondu, wallahi, inni la a'lamu al-yawm alladhi nazalat ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa as-sa'ata allati nazalat fiha ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam 'ashiyata 'arafata fi yawm al-jum'ati. Dit par Allah, je connais le jour où ce verset a été révélé. Je connais à quelle heure précise ce verset a été révélé. C'était le soir du jour de Arafat, un vendredi. Parmi les leçons que nous pouvons tirer ici, c'est l'attitude des croyants, des musulmans, et la différence entre les musulmans et les juifs. Les juifs étaient des personnes qui ne se contentaient pas de suivre leur prophète dans l'adoration, dans la mise en pratique des enseignements. Il faisait beaucoup d'innovations. Écoutez bien ce qu'il a dit. Si ce verset avait été révélé sur nous, on aurait fait de ces jours un jour de fête. Et méditez sur la réaction de Omar radiallahu anhu. Parce que, pour nous, la religion de l'islam, c'est la religion du sunnisme. Le verset en question interdit indirectement l'innovation en islam. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé cette religion, alors que dans ce parachèvement, il n'a pas prescrit qu'on prenne, qu'on fasse de ce jour un jour de fête, ça veut dire que faire de ce jour un jour de fête est une innovation. Et quelque chose qu'on vient ajouter à ce parachèvement. Or, lorsqu'une chose est parachevée, ça veut dire qu'il n'y a plus moyen d'ajouter quelque chose là-dessus, sinon ce parachèvement n'a plus de sens. Donc c'est pour ça que Omar radiallahu anhu lui a fait comprendre que la religion de l'islam, c'est la religion du suivisme. Qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé cette religion, donc il ne nous reste plus qu'à suivre. Il lui a donc fait comprendre que les musulmans savent quand est-ce que ce verset a été révélé. Ils savent même l'heure précise et le jour où ce verset a été révélé. Mais seulement, ils n'innovent pas en religion. Toute célébration liée à la religion fait partie de la religion. Or, pour qu'un acte soit adoration, il faut automatiquement que cet acte soit légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala et enseigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que les pieux prédécesseurs aient dévancé tous les musulmans dans la mise en pratique de cet acte. C'est pour ça que toute pratique n'ayant pas été pratiquée par les pieux prédécesseurs ne fait pas partie de la religion. لأن أهل السنة يقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه معناه لو كان دينا لسبقونا إليه disent de toute innovation que si elle faisait partie de la religion les pieux prédécesseurs nous aurons prédécédé là-dedans nous aurons précédé là-dedans. وهذا الكلام هو ما يقتضيه أو تقتضيه النصوص. Et cette parole, c'est ce qu'implique les textes clairs de la révélation. الله سبحانه وتعالى سماهم صادقين ووصفهم بهذا الوصف. الله سبحانه وتعالى les a qualifiés de prédécesseurs. En quoi est-ce qu'ils sont nos prédécesseurs? Si ce n'est dans la mise en pratique des enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est dans le délaissement de tout ce qui devrait être délaissé en religion. قال الله تعالى والسابقون الأولون. Les tout premiers musulmans, les prédécesseurs, les tout premiers musulmans qui vous ont précédé dans l'islam, dans la mise en pratique des textes du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'abandon de ce qui devrait être abandonné islamiquement, min al muhajirin, parmi les muhajirin, ceux qui ont fait les hijr, qui sont partis de la Mecque pour Médine, ou l'Ansar et ceux qui les ont reçus à Médine. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ ainsi que ceux qui vont les suivre, ceux qui les ont suivis dans la bonté. Subhanallah. Donc, tu ne peux accéder à la sentence qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appliquée. Non. À cette introduction, que si tu ne suis les pieux prédécesseurs. Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala dit les tout premiers musulmans parmi les muhajirins et les ansars, ainsi que ceux qui les ont suivis dans la bonté, Rabbi Allahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Donc pour accéder à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut automatiquement passer par le suivre des pieux prédécesseurs dans la bonté. Le suivi des pieux prédécesseurs dans la bonté. Donc, vous savez qu'ils étaient dans la bonté. Donc ce qu'ils ont délaissé fait partie, le délaissement de ce qu'ils ont délaissé fait partie de la bonté. Et la mise en pratique de ce qu'ils ont pratiqué fait partie de la bonté. Or, voilà la preuve. Omar et les compagnons du prophète n'avaient pas fait de ces jours un jour de fête. Et la réponse de Omar est une preuve claire que les fêtes font partie des pratiques religieuses. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de ce jour un jour de fête parce qu'il n'y a aucune preuve. وقال ابن عباس رضي الله عنه إن الله رضي هذا الدين لرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين. الله سبحانه وتعالى dit ابن عباس a agréé cette religion pour son prophète et pour ses serviteurs croyants. فلا يسخطه أبدا. Et il ne sera pas fâché de cette religion. Il ne sera plus jamais fâché de cette religion. Parce que c'est la religion qu'il a agréée. وأتمه فلا ينقصه أبدا. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé, a complété cette religion et il ne la réduira plus jamais. Donc, ça veut dire que à partir du jour où Allah subhanahu wa ta'ala avait parachevé l'islam, il nous a fait comprendre qu'il l'a parachevé jusqu'au jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala n'augmentera plus rien. Donc ça veut dire que ce qui n'a pas été religion, ce jour ne sera plus jamais religion. Ce qui ne faisait pas partie de l'islam ce jour ne fera plus jamais partie de l'islam. وأكمله فلا يقبل الزيادة أبدا. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a parfait et il n'accepte plus qu'on, il n'accepte qu'on ajoute rien à cette religion. Conclusion, il ne nous reste plus que de suivre. C'est ça qu'Ibn Abbas radiallahu anhu veut qu'on retienne à travers ce récit. C'est que islamiquement, il ne reste plus que le suivisme. La porte de l'innovation est fermée en islam. La porte de la parole, de la paresse également. Il ne reste plus qu'à suivre les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa thabata fi al-hadith as-sahih anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala. Il a été rapporté dans un récit authentique que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a certes dit: Taraktukum ala al-mahajjat al-bayda, je vous ai laissé sur une voie claire, layluha ka nahariha, des jours comme de nuit, la yaziru anha illa halikun, personne ne délaisse cette voie à moins qu'il ne soit voué à l'égarement. Ça veut dire que quoi? Lorsqu'une personne délaisse cette voie claire sur laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a délaissé, elle ne peut être sur autre chose après avoir délaissé cette voie que dans l'égarement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Wa qala Abu Darda رضي الله عنه صدق رسول صدق والله رسول الله لقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء. أبو الدرداء إلى جي فرابو أوريتي précédemment cité صدق والله رسول الله فالله لمسجد الله أجي vrai. Certes, il nous a délaissé sur une voie claire. Non? Il nous a laissé, non? Sur une voie claire. De nuit comme de jour. وَثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْآخَرِ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الرسي وتنفيك لفهم صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما جلسي جفزي لسيس دو شوز دون قالوا qui vous empêchera de vous égarer après moi? Kitab Allah wa sunnati, le livre d'Allah et ma tradition, ma sunna. Wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd. Et ces deux se seront indissociables jusqu'à ce que ces deux n'y parviennent le jour de la résurrection. C'est une façon de dire jusqu'au jour de la résurrection. حتى يرد علي الحوض لأن ورود الحوض سيكون يوم القيامة. C'est le jour de la résurrection qu'il y aura Al-Hawd du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est un coup d'eau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé au prophète sallam et à sa communauté. قال أبو ذر رضي الله عنه أبو ذر أجي تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. Le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم nous a laissé وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. Et, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, il n'y avait pas un oiseau qui se promenait en l'air sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous enseigne quelque chose relatif à cet oiseau. Ça, c'est une expression que les Arabes utilisent pour dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Darda a utilisé pour dire que le prophète sallam n'est pas mort, ou alors n'a été rappelé par Allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'il avait tout enseigné. Tout ce dont on a besoin avait été enseigné par lui avant qu'il ne soit mort. Il n'y a pas une seule chose qu'on puisse avoir besoin sans que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne nous ait enseigné. Vous comprenez le sens de tout ce texte par rapport au sujet. C'est pour dire que il n'existe pas une seule fitna et il n'existera pas une fitna sans qu'on ait trouvé la solution par rapport à cette fitna dans le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi, en réalité, lorsqu'une fitna jaillit, se propage et perdure, en réalité, cela indique l'abandon des gens et leur éloignement des sources de l'islam. Fahimtum haza? Parce qu'il n'existe pas un seul problème au monde sans que l'islam ne soit venu avec la solution. C'est ça que l'auteur veut que nous comprenions à travers tous ces textes. Qu'il n'existe pas un seul problème au monde sans que l'islam ne soit venu avec la solution. Mais seulement, pourquoi est-ce que le problème se répand, se propage et perdu? C'est à cause de l'ignorance, de l'éloignement des gens, des enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-mu'allif hafidhahullah. ولذلك تعجب غير المسلمين من عظمة هذا الدين. Il dit, c'est pour ça que même les non-musulmans s'étaient étonnés de la grandeur de cette religion. وراه يسألون الصحابة عن تمامه وكماله وشموليته وصلاحيته لكل زمان ومكان وأمة. Ils s'étaient étonnés à tel point qu'ils sont allés interroger les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la complémentarité de cette religion, par rapport à Salahiyya. Qu'est-ce que tu tarjimon Salahiyya? Non? Ça? Ça? Sa purité? Non, c'est pas ça le sens ici. Salahiyya les kulli zamani wa makan. C'est par rapport au fait que la religion de l'islam convient à tout temps et à tout lieu. La temporalité de l'islam. Et du fait que cette religion soit adéquate pour toute communauté. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي أن يهوديا سأله قال Il a été rapporté dans le recueil authentique de Muslim, dans le hadith de Salman al-Farisi, radiallahu anhu, qu'un juif lui avait demandé en disant, قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاعَ C'est le juif, en s'imprégnant de l'islam, s'est rendu compte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait tout enseigné. Qu'il n'y avait pas un seul domaine qui touchait la vie sans que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ait traité ce domaine. Il a été choqué, il a interrogé Abu Darda, Salman al-Farisi. Il lui a dit, votre prophète vous a tout enseigné, même des enseignements relatifs au besoin, au petit coin. Vous comprenez? Qala ajal. Il lui a dit oui. Que le juge était étonné. Il vous a enseigné toutes ces choses, même des choses que certaines personnes n'osent pas souvent mentionner. Il lui a dit oui. لقد نهانا أن نستقبل القبلة لرائف أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيء أو بأظم إلى الجيف était dépassé parce que là il pensait qu'il avait trouvé vous connaissez parce que quand les juifs posaient des questions comme ça parfois aussi c'est pour trouver Des failles. Parce que vous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a paraphrasé votre religion. Donc il ne faut pas qu'il y ait un seul domaine de la vie qui soit délaissé. Donc c'est pour ça qu'il est venu avec cette question et il pensait que là quand même, il va parler du petit coin et tout. Il dit, failles. Votre prophète vous a tout enseigné, même des notion relative au petit coin. Abu Darda dit Ajali Nahana Salman Al-Farisi Rabbi Allahu Anhu a dit Ajal lui laqad nahana an nastaqbil al-qibla. Le prophète sallam nous a interdit de nous orienter vers la qibla lira'itin ou bolin lorsque nous faisons nos besoins ou alors lorsque nous urinons. On a stangé à Bilyamin. Il nous a également interdit d'utiliser la même droite. Vous voyez l'islam? La pureté de l'islam. C'est ça, toutes ces choses-là, si le musulman fait partie de sa religion. C'est quelqu'un qui est propre. On attendait bi aqall min thalathat ahjar wa la kun utilise moins de 3 pieds. Vous savez qu'à l'époque on n'avait pas les papiers hygiéniques et les choses comme les pochettes que nous avons aujourd'hui. Alors qu'est-ce que les anciens utilisaient? Les cailloux. Ça, c'est les musulmans, ceux qui sont propres, le caillou et l'eau. Al-istijmar ou al-istinja. Al-istijmar, c'est l'utilisation des cailloux ou al-istijmar. ou les finja, c'est l'utilisation de l'eau. Et les fukaha disent que l'utilisation des deux est meilleure. Regardez l'islam. C'est pour ça que certains savants disent qu'aujourd'hui, l'utilisation du papier hygiénique et de l'eau est meilleure. L'utilisation des deux ensemble, c'est-à-dire que tu utilises d'abord le papier hygiénique, après tu utilises l'eau, pour ne pas toucher les excréments avec les mains. Regardez la pureté de l'islam. En Espagne, il y a Béranger, il nous a également interdit d'utiliser les eaux. Les ragis, ce sont les excréments des animaux. Et on ne doit pas utiliser ce qui est sale, ce qui est impur à la base. Au avum, ou alors qu'on utilise les eaux. Les savants disent que parce que les eaux font partie de la nourriture des djinns. Les djinns. Les eaux, oui. Os. قال حفظه الله ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بين للأمة ما تحتاجه في معاشها. C'est pour ça que le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم n'est mort qu'après avoir exposé, enseigné à sa communauté ce dont elle a besoin dans sa vie ici-bas ainsi que sa vie dans l'au-delà. Fi dunyaha wa diniha wa akhiratiha. Il a enseigné à sa communauté ce dont elle a besoin ici-bas dans l'au-delà et dans sa religion. Si aqaidiha wa mabadiha wa tawabitiha. L'islam a également enseigné aux croyants ce dont il a besoin de savoir dans sa croyance. Les éléments de base de la religion, de la croyance, le tawabit, les principes de base. Et ça rejoint ce qu'on disait à Balkhair. Et ça, il atteste de la véracité de ce que disait le frère hier. En réalité, lorsque nous lisons le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallam, à chaque fois nous devons chercher à comprendre en quoi est-ce que ce verset nous concerne. Et à chaque fois que tu lis un verset, il faut que tu considère qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à toi et que tu essayes de comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi par le biais de ce verset, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne par ce verset, à travers ce verset, ce qu'il t'interdit, ce que le prophète sallam te demande dans ce hadith. C'est comme ça que nous devons lire les hadiths, faut pas seulement les mémoriser. Pourquoi je rappelle ça? Parce qu'hier on parlait avec le frère sur le hadith concernant le hadith où le prophète sallam dit man mata wa laysa fi unuqihi bayta bay'a mata mitat al jahiliya. Celui qui meurt n'ayant pas sur son cou la bay'a, comment est-ce qu'on appelle la bay'a en français? Non, la légende. Non, celui qui meurt n'ayant pas su son coup la légende, c'est-à-dire au dirigeant, Waliyul Amr. Non, qui meurt dans cette situation est mort d'une mort qui relève du paganisme. Ça, c'est dangereux, c'est sérieux. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à ces questions, aux questions liées aux autorités, le statut de l'autorité, qui est un wali ul amr, c'est quelque chose que tu dois connaître. Est-ce que tu as un wali ul amr est-ce que tu as l'allégeance? C'est important. C'est pour ça que ceux qui s'attaquent à ces questions et qui pensent que ce sont des questions simples, des petites questions, sont dans l'erreur. Ils sont dans un égarement clair. Parce que ce sont des questions qui relèvent du dogme en islam. Ce sont des questions qui ont été citées dans les livres du dogme. Et le musulman doit savoir qui est son wali ul amr. Est-ce qu'il a un wali ul amr, ainsi de suite. Donc ce n'est pas une petite affaire. Et le wali ul amr, comprenez bien, le wali ul amr, quand on parle du wali ul amr, ce n'est pas nous qui décidons qui est le wali ul amr. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a exposé clairement qui est le wali ul amr. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé du wali al-amr et les savants ont traité les questions relatives à l'autorité religieuse, l'autorité en islam, et ce sont des questions claires. Donc nous devons nous intéresser à ces questions. Voilà, c'était pour expliquer pourquoi j'ai dit ce que je disais tout à l'heure aux frères pour que vous soyez imprégnés, quoi. وفي مآكلها ومشاربها le prophète sallam a donné des enseignements relatifs à la nourriture, comment est-ce que le musulman doit manger, à la boisson, comment est-ce qu'il doit boire, ومناكلها la vie conjugale, وبيوعها les transactions commerciales, وفي علاقاتها مع غيرها la relation qu'entretient le croyant avec son semblable. بل واعظم من ذلك صلته واعظم من ذلك صلتها بربها plus grand que ça la relation que doit entretenir le serviteur avec son créateur et la relation qui doit exister entre lui et son créateur. مما جعل العالم يذهل ويندهش من هذه الأحكام والمبادئ والقواعد والأصول التي أتت على دقائق الأمور وتفصيلاتها كبيرها وصغيرها. شرجي tous ces sentences, tous ces jugements relatifs aux plus petits détails ont fait que le monde entier s'est étonné, s'est ébahi de ces jugements et de la complémentarité de cette religion des principes, des bases que l'islam a établi concernant toutes ces choses-là, jusqu'au moindre détail, l'islam a tout enseigné, comment est-ce qu'on doit se protéger, comment est-ce qu'on doit se comporter face à la magie, comment est-ce qu'on doit se protéger, subhanallah, yani, tout ça. L'islam nous a donné des enseignements là-dessus. Jusqu'au moindre détail, Yahri. L'islam nous a enseigné comment entretenir le rapport. L'islam nous a enseigné comment est-ce qu'on doit se comporter vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de ses voisins. Toutes ces choses-là. قال ومن هنا لا بد أن نعلم ونعرف أن الكتاب والسنة متلازمان. Et à partir d'ici, nous devons de savoir une chose, que le Coran et la Sunna sont indissociables. لا ينفك أحدهما عن الآخر. L'un ne peut se détacher de l'autre. ولا يمكن أن يسترني بأحدهما عن الآخر. Et personne ne peut s'en passer de l'un par rapport à l'autre. في أي حال أو ظرف quelle que soit la situation, on ne peut s'en passer de l'un. On peut s'en passer du Coran et de la Sunna. On doit œuvrer avec les deux. Au ayi zamanin wa makan, et quel que soit le temps et le lieu où on se trouve. Wa mahma kanat al ahwal wa dawa'i wa al mubarrirat, et quel que soit les situations, les causes, on ne peut s'en passer de l'un. On doit œuvrer avec les deux. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك فكل فرسل محمد صلى الله عليه وسلم أي تبليس له وأفصله وأطره وأبانه أيما إبانة فكل فرسل وسلم لا اسم ذكر إرمام كما ثبت ذلك في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم سلا يترى بوتيدا في حديث بون قال فرسل وسلم أسير سديه لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه فيقول ما أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. Dans ce hadith, le Prophète sallam dit que je ne trouve pas l'un de vous installé sur son canapé et que l'un de mes ordres le parvient et qu'il dise moi, je ne sais pas. Ce que je trouve dans le Coran, je mets en pratique. C'est-à-dire, il utilise le Coran pour rejeter la Sunna. Ça, c'est contraire à l'enseignement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Pourquoi est-ce que le père amène ça? Parce que ça fait partie des causes des troubles. Et ça fait partie des troubles, le fait de délaisser la Sunna du prophète sallam. Le fait d'utiliser la révélation pour contredire la révélation, alors que les deux ne se contredisent pas. Le Coran et la Sunna ne se contredisent pas. Parce que les deux représentent la révélation, ça veut dire que ont la même source. Les deux émanent tous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah azza wa jal fi muhkam al-tanzil mukhatiban ummahat al-mu'minin. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. Rappelez-vous de ce qu'on récite dans vos maisons en s'adressant aux mères des croyances, aux femmes du Prophète sallam. Allah dit, et rappelez-vous de ce qu'on récite dans vos maisons comme verset d'Allah subhanahu wa ta'ala et la hikma. قال الشافعي ومجاهد والكسائي الشافعي ومجاهد الكسائي عندي المقصود بالحكمة هنا هي السنة لا حكمة فولي dans le verset ici c'est la sunna parce que la sagesse si on prend le sens littéral qui est la sagesse ne se récite pas avec ce cadre. C'est un état, c'est... Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'une sagesse qui se récite ici, après avoir cité ces versets, ça veut dire qu'automatiquement, il s'est allusion à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était elle aussi récitée. لأن ما يتلى في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قرآن أو سنة فكل ما يتلى في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم هو سواء الآية سواء السنة ما العلم أن المؤمن يجب عليه أن يعتقد أن القرآن والسنة هما من وحي الله على رسوله إيه الكونجين دي رابلي إيه que le croyant se doit de croire fermement que le Coran et la sunna font partie de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son prophète. Wa ma waqa'a, ma waqa'a. Maintenant vous allez comprendre c'est quoi le lien. Voilà. Wa ma waqa'a, ma waqa'a, wa inharafa man inharafa, wa zalla man zalla, illa li jahlihi bi sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Il dit car en réalité il n'y a pas eu ce qu'il y a eu comme trouble. Et celui qui s'est égaré ne s'est pas égaré. Et celui qui est tombé dans l'erreur est tombé dans l'erreur. Il a les gens qui disent si ce n'est pas son ignorance de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que plus on maîtrise la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus on est à l'abri des troubles. Plus on est loin des troubles. Wa adam al-akhdh biha, et le manque de s'y attacher à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou ma ja'a fiha min bayan lima ujmila fil Qur'an, ou alors soit à cause de son délaissement de ce qui a été détaillé dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant ce qui a été dit de façon concise dans le Coran. Il y a des choses qui ont été dites dans le Coran, mais de façon concise et qui ont été détaillées dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes qui sont tombées dans l'erreur, qui se sont égarées, qui sont tombées dans les troubles, c'est parce que ils ont abandonné la sunna et ont cru s'attacher au Coran, alors que dans le Coran, il y a des choses qui ont été dites de façon concise, mais qui ont été détaillées dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça va dans le sens de ce que nous avons dit. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إمام ابن القيم رحمه الله جي. فانظر حكمة الله في خلقه وأمره. Regarde la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création et dans ses ordres. فيما خلقه. Via ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé et فيما شرعه. Et dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, tajidu masdara zalika kullihi al-hikmat al-balira. Tu trouveras que tout cela est basé sur une sagesse absolue. Allati la yakhtallu bi nidamiha. Une sagesse dont l'organisation ne, à l'ikhtilal, c'est quand une chose n'est pas, connaît des instabilités. Quand une chose n'est pas, normale. Voilà. Barakallahu fik, c'est ça le mot. Donc, une sagesse qui ne connaît pas de faille. ولا ينخرم ابدا يعني فبا dans le même sens ولا يختل اصلا une sagesse qui n'est jamais touchée يعني pas qui ne connaît jamais de faille comme tu as dit ومن الناس من يكون حظه من مشاهده حكمه الامر اعظم من مشاهده حكمه الخلق il y a parmi des gens ce qui observe la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses ordres, plus que la sagesse qu'on observe dans la création. Et il y a des personnes qui méditent pour ce qui est de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la méditation de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus lorsqu'il s'agit des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non? Et il y en a qui méditent plus sur la création en général. Vous comprenez? وَهَاُولَاءِ خَوَاسُ الْعِبَادِ. Et ceux-là sont des serviteurs particuliers d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ceux qui méditent sur Al-Amr Huna, c'est la législation, sur la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui méditent sur la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la législation. Ce qu'il y en a, et ça c'est presque tout le monde, ceux qui méditent sur la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Fahimtum? Parce que quoi? Là c'est, la sagesse est plus palpable, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Non, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'eau? C'est notre besoin vis-à-vis de l'eau et, comment est-ce qu'on dit? Est palpable. Or, pour ce qui est de la législation, il y a des choses que parfois on ne comprend pas pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ces choses-là. Là, il faut méditer et il faut pousser dans la méditation pour comprendre. Et ceux qui le font, ce sont les particuliers parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà ce que dit Ibn al-Qayyim. Il dit, « Alladhina aqalu anillahi amrahu wa dinahu » Ce sont ceux-là qui ont compris d'Allah subhanahu wa ta'ala sa religion. Qui ont compris Allah et ont compris sa religion. « Wa'arafu hikmatahu fima ahkamahu » Et ont compris la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. « Wa shahidat » فطارهم وأقولهم أن مصدر ذلك حكمة بالغة. Ceux-là dont la nature, ceux-là dont leur nature ont attesté et leur raisonnement ont attesté que la base de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, c'est une sagesse absolue. وإحسان et la bonté. ومصلحة et l'intérêt, ça veut dire que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, c'est pour un intérêt, pour ses serviteurs. Uridat bil ibadati ma'ashihim wa ma'adihim. C'est pour un intérêt qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, pour ses serviteurs, dans leur religion, dans leur vie, ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Qala, intaha kalam al-qayyim. Qala, wa idha ta'amalta akhi al-muslim mimman استمع ورأى في تاريخ أمة الإسلام رأيت أنها لما أخذت بنصوص الوحيين وطبقهما تطبيقا كاملا كانت أمة السيادة والريادة وأصبحت عزيزة مهابة الجانب. Ensuite le cheikh dit, وإذا تأملت أخي المسلم, oh mon frère musulman, si tu médites, mimman istama'a ou ra'a fi tarikh ummat al-islam, si tu médites sur ce que tu écoutes de ceux qui ont vécu, ou alors à travers l'histoire de la communauté musulmane, ra'ita annaha lamma akhadhat bi nusus al-wahyin, tu te rendras compte que lorsque la communauté musulmane était cramponné au texte de la révélation du kitab et de la sunna, وَتَبَّقَتْهُمَا تَطْبِيقًا كَامِلًا, et lorsqu'il mettait en pratique tous les enseignements du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu te rendras compte qu'ils étaient les patrons sur terre. C'était eux, c'est à eux qu'appartenait la suprématie sur terre. وأصبحت عزيزة, et ils étaient devenus puissants. مهابة الجانب, que leurs ennemis craignaient. لها صولة وجولة, et ils avaient une réputation. لا يمكن أن يصلحها. Donc si tu comprends cela, tu comprendras également une chose, c'est quoi? ولا يمكن أن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما aslaha awwalaha, et personne et rien ne peut aflaha ici, comment vous traduisez ça? Yani, non. Rien ne peut réformer cette communauté qui est par rapport à la première communauté et la dernière. Non. Rien ne peut réformer la dernière communauté. Ou alors les derniers membres de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est ce qui avait réformé la première communauté. كما قال ذلك الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال إمام مالك لدي ولذلك جاء الشرع المطهر ببيان ما ينقض من هذا الدين فتسك الإسلام est venu avec l'exposition de ce qui détruit cette religion, ce qui entache cette religion. والناس يتدابرون ويتناحرون ويتقاتلون ويكون بينهم من الخلاف والاختلاف والشر ما هو معلوم في حاضرنا وفي ماضي هذه الأمة. Et parmi les hommes, il y a eu des détournements des uns envers les autres, il y a eu des haines, ils se sont combattus. Et jusqu'à nos jours, il existe toujours des divergences entre les hommes et le mal. Ma huwa ma'loum. Qui est connu. Wa fi ma'di hadhihi al-umma. C'est, il y a eu tous ces problèmes par le passé. Tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, il y a eu des problèmes semblables à ces problèmes par le passé. Vous comprenez le lien par rapport au sujet. Pourquoi est-ce que le chef nous parle de tout ça? Pourquoi est-ce qu'il a ramené la parole de l'imam Malik? Il y a eu des troubles à l'époque. Non? Et les premiers ont réussi à gérer ces troubles-là. Donc ça veut dire que on ne pourra connaître le succès dans la gestion de nos troubles que si nous les gérons comme ils avaient géré. Et comment est-ce qu'ils les avaient gérés? Ils les avaient gérés en revenant à ces deux sources, au Coran et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال ولذلك فإن من أهم ما تناولته النصوص الكتاب والسنة. C'est pour ça que parmi les choses importantes qui ont été traitées dans les textes du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وتناوله علماء الأمة, et parmi les choses qui ont été traitées par les savants de la communauté, الفتن, les troubles. Tout ça c'est une introduction pour parler du trouble, des troubles. C'était pour expliquer déjà qu'il n'y a pas quelque chose que l'islam a omis parmi les choses dont nous avons besoin dans notre vie mondaine ainsi que celle de l'au-delà. Ensuite, le chef nous a parlé de la place du kitab et de la sunna du prophète Mohammed sallam et de l'importance de s'y cramponner. Ensuite, il nous a fait comprendre que pourquoi l'islam a accordé une importance particulière aux troubles. Et que les troubles font partie des choses qui ont été traitées dans les textes du Coran et de la Sunna du Prophète et qui ont été traitées par les savants. وَتَنَاوَلَهُ الْأُمَّةُ وَعُلَمَاءُ الْأُمَّةُ الْنَامُ ولذلك فإن من أهم ما تناولت من نصوص الكتاب والسنة. Donc c'est pour ça que parmi les choses importantes, les plus importantes qui ont été traitées dans les textes du Coran et de la Sunna et qui ont été traitées par les Torah, al-fitan, les troubles. ببيان حقيقتها, comment est-ce que l'islam, les textes du Coran et de la Sunna ont traité les troubles? Comment est-ce que les savants ont traité? ببيان حقيقتها, ils l'ont traité en exposant les réalités relatives à ces troubles. وأسباب الوقوع فيها. L'islam a également traité les causes qui mènent au trouble. وخطورتها. L'islam a également exposé le danger de ces troubles. وسبل النجاة من الوقوع في براثنها وفسادها وإفسادها. L'islam nous a également enseigné les voies et moyens nous permettant d'être à l'abri
des maux
engendrés par les troubles, de la corruption et des désastres qui proviennent des troubles. ودعاتها الذين يتربصون بأبنائنا وبناتنا الدوائر. L'islam nous a également mis en garde contre les troubleurs et ceux qui appellent au trouble et qui visent nos enfants et nos filles. ولم يكن هناك مسألة صغيرة كانت أو كبيرة دقيقة أو جليلة مما نرى أن بعض الدعاة الواقعين على أبواب جهنم يقذفون فيها كل من أجابهم إليها إلا وفي الشريعة الإسلامية العلاج الناجي. الله أكبر.
شوفي
il n'existe pas une seule question, fût-elle petite ou grande, compliquée ou simple, parmi les questions qu'utilisent ceux qui sont aux portes de l'enfer et qui, et donc quiconque répond à leurs appels, les projette dans l'enfer. Il n'y a pas une seule question parmi les questions et parmi les ambiguïtés que propagent ces derniers sans qu'il n'ait dans l'islam, dans la charia, al-ilaj al-naji, le traitement adéquat. Ça veut dire que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est l'ignorance. Le problème, c'est quand les gens n'étudient pas. Il n'y a pas une seule question, une seule ambiguïté que ces personnes utilisent pour égarer les gens, sans que dans l'islam, il n'y ait un traitement adéquat à eux, à cette ambiguïté. والدواء الشافي الكافي لكل ذلك. Et sans qu'il n'y ait dans l'islam le médicament suffisant qui traite cette maladie. ولكن هل نوفق إلى الأخذ به وتطبيقه. Mais le problème c'est, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera l'accommodement afin qu'on puisse prendre ces tests et de les mettre en pratique. وكذلك تعليم الناس إياه. Ainsi que l'enseignement de ces tests aux gens qui ont traité ces problèmes. حتى نسلم من الوقوع في الفتن. Et afin que nous soyons à l'abri des troubles. ومن كل مؤول. Et afin que nous soyons épargnés de tous ceux qui détournent les tests. ومشبه ومعطل ومنحرف. Tout ça ce sont des égarés. وفاسد في عقيدته. Afin que nous soyons à l'abri d'une personne qui a un dogme corrompu. وأخلاقه. D'une personne qui a des comportements des comportements corrompus. Donc, voilà une forme d'introduction que le cheikh a voulu faire avant de commencer à parler de la fitna, ou alors de fitna proprement dit. Et nous allons nous arrêter ici. Et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse effet de ceci sur la bonne parole et la mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force de nous cramponner au kitab et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hala wallahu ala wa alam sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.